Alain Ayotte détient une maîtrise interdisciplinaire en art de l'Université Concordia, ayant pour titre un atlas pornographique entre Scientia Sexualis et Ars Erotica. Il est présentement étudiant au doctorat en histoire de l'art et adjoint de recherche sur le projet d'exposition « Culture du témoignage » à l'UQAM. Son sujet de thèse portera sur l'appropriation artistique de la pornographie et l'analyse des discours théoriques s'y rattachant. Aujourd'hui, Alain Ayotte nous présente une communication qui s'intitule « Performer la pornographie dans le contemporain, de l'identité à la résonance ».
Oui, donc bonjour à tous. Je suis content d'être ici. Derrière moi, c'est en fait la structure de mon intervention aujourd'hui, de ma présentation. Ça va se dérouler en quatre parties. Je ne vais pas vous les lire, vous pouvez les voir ici, puis je vais, au fil de la présentation, je vais avoir des titres. Donc, les trois premières parties, beaucoup plus théoriques, et la dernière partie, ben, ça sera des images, parce que, bon, quand il est question de pornographie, souvent, je trouve que dans les interventions, dans les cours que j'ai vus, on parle beaucoup d'images, de représentations sexuelles, mais qu'on n'en montre pas. Donc, je vais en montrer, mais ça sera mon projet de... Vous allez voir probablement... vous allez voir mon projet de recherche-création à la maîtrise, donc, où il y a plusieurs artistes. Donc, mon objectif, c'est de proposer à partir des notions de performance et de performativité des approches théoriques repositionnant nos a priori face à l'appropriation artistique de la pornographie. Donc, à la fin de la présentation, je vais vous présenter mon projet de maîtrise. Dans l'histoire de la sexualité, la volonté de savoir, Michel Foucault oppose la scientia sexualis, science de la sexualité, à l'ars erotica, l'art érotique. Selon lui, il existe deux régimes de vérité produisant le discours sur le sexe. D'un côté, la scientia sexualis, basant son savoir sur la production du discours par l'aveu, a permis la constitution d'une archive classifiant et catégorisant les douleurs et les plaisirs du sexe dans les sociétés occidentales depuis le 19e siècle. De l'autre, l'ars erotica, associé traditionnellement aux sociétés orientales ou antiques, produit son savoir sur la pratique et l'expérience des plaisirs et cherche à amplifier les effets de ce savoir dans le corps et la conscience des initiés à travers différentes techniques. À la fin du chapitre sur la scientia sexualis, Michel Foucault jette un doute sur la disparition de l'ars erotica dans la société occidentale et émet l'hypothèse que la scientia sexualis serait une forme subtile de l'art érotique ou de l'ars erotica. Ici, selon Foucault, il n'y a pas de répression des discours du sexe, il demeure que le système classificatoire de la scientia sexualis, qui se veut exhaustif, instaure une norme exclusive aux catégories figées. Le philosophe Arnold E. Davidson, dans son essai « Foucault, psychanalyse et plaisir », tente de démontrer ce que signifie la distinction foucaldienne entre ce que pourrait être un art érotique et une science de la sexualité. Selon lui, la distinction entre ars erotica et scientia sexualis mine les conceptions essentialistes du sujet liées à la psychanalyse, questionne le dispositif de la sexualité depuis le 19e siècle et met à profit une dialectique de la sexualité. L'ars erotica s'organise selon lui, selon le cadre corps-plaisir-intensité, alors qu'une science de la sexualité repose sur l'axe du sujet, désir et vérité. La théorie du désir associée à la scientia sexualis se centralise autour d'un discours de vérité sur l'identité du sujet, alors que l'ars erotica s'attarde au discours du plaisir et à la recherche de son intensification. Une science de la sexualité a besoin d'une prise sur le sujet, alors qu'un art érotique perturbe les limites de ce sujet. Comme le dit Foucault, le plaisir, c'est quelque chose qui passe d'un individu à l'autre, ce n'est pas une sécrétion d'identité. Cette tension entre la scientia sexualis et ars erotica s'exprime dans le clivage entre la performance pornographique et l'art érotique dans nos sociétés contemporaines. Selon la théoricienne du cinéma Linda Williams, dans son ouvrage « Hardcore, Power, Pleasure and the Frenzy of the Visible », la pornographie se présente comme une forme de sciencia sexualis, en tant que discours compulsif à montrer l'orgasme, exposant et produisant la vérité sur le corps. À la volonté de savoir s'ajoute une volonté de voir, alliant une science de la sexualité et des technologies du visible qui développent des catégories spécifiques de désir. Donc, depuis l'invention de la pornographie, du cinéma et des études scientifiques sur la sexualité, la performance pornographique instaure une norme ou des normes dans les représentations et les pratiques. Par contre, nous pourrions explorer l'usage de la performance dans le champ artistique, à l'intérieur de son appropriation de la pornographie, en nous demandant ce qu'elle fait de la science de la sexualité ou la scientia sexualis et de son régime discursif sur le sexe. Car cette performance des artistes, à travers différentes pratiques, ne devient-elle pas performative en déplaçant à la fois les normes artistiques et pornographiques? Les dernières recherches inachevées de l'historien de l'art Abby Warburg peuvent permettre de faire une autre lecture de la performance pornographique et de son appropriation. Son atlas Mnemosyne, réalisé entre 1924 et 1929, se révèle un dispositif inépuisable pour de présentes et futures investigations méthodologiques de l'image, entre autres. Donc ici, c'est seulement une planche de l'atlas. Il y a 79 planches recouvertes d'un drap noir où sont épinglées sous des thématiques différentes diverses reproductions photographiques sous différents thèmes. Puis, Warburg étudiait les récurrences de certaines gestes. Je vais vous expliquer ce que c'est, là. Mais il y avait des liens entre les images, je faisais des montages qui pouvaient changer. Donc, c'était des images qui étaient épinglées et qui pouvaient changer de place s'il voulait. Donc, c'est un peu presque l'origine de l'Internet ou je ne sais pas, là, mais à son époque. Donc, l'atlas Mnemosyne se basait sur deux concepts principaux, soit les survivances, se définissant comme des récurrences dans les images à travers le temps, et les formules de pathos comme des gestes passionnels du plaisir, de la douleur et de l'excès. Ces récurrences se produisent à travers un travail de la mémoire, de l'imagination, du fantasme, du montage. Les images chez Warburg doivent être comprises comme processus, à la fois comme forme symbolique et force agissante, en constante oscillation entre distanciation et appropriation. Georges Zuberman, commissaire de l'exposition Atlas en 2010, déclare que cette exposition est une tentative de critiquer l'image-objet au nom de l'image-acte ou de l'image-travail. Je crois que l'approche suggérée par Zuberman est porteuse afin d'élaborer notre réflexion ou ma réflexion sur les liens qu'entretiennent la scientia sexualis, l'ars erotica, la performance pornographique, la performativité et l'image. D'ailleurs, beaucoup de commentateurs d'Abby Warburg en restent à cette réflexion exclusive de l'image. Par contre, le philosophe Giorgio Agamben propose, dans son essai « Notes sur le geste », d'entreprendre une autre lecture de l'atlas et de déplacer notre intérêt de l'image au concept du geste. Selon lui, nous devons considérer les images comme des gestes. Ainsi, l'appropriation de la pornographie serait affaire de gestes, de performance et de performativité. Judith Butler élabore une influente théorie du genre et son concept de performativité. Bon, il y a aussi Austin, évidemment, Derrida, tout ça, mais moi j'ai repris Butler. Selon elle, la performativité souligne la capacité du corps à imiter, citer ou réitérer le processus normatif à travers ses expressions corporelles. Mais il est impossible de copier ou de répéter la même chose dans la durée. À l'intérieur de cette impossibilité s'inscrit la capacité d'agir, permettant la transformation du sujet. Cette capacité d'agir ou agentivité est un geste critique, de la normalisation du sexe, du genre et de la sexualité. Cette critique qualifiée de queer dans le champ de l'histoire de l'art et de la sexualité réinterprète le corps, ses images, comme subversion, mais je crois aussi comme survivance, comme nous montre Warburg. Elle fait revivre des corps, des images, des rites occultés par la culture normative qui considère certaines représentations sexuelles ou autres comme vulgaires, indignes d'être vues, et que la théoricienne de l'art Jennifer Doyle nomme « queer wallpaper ». Donc, si je fais des liens dans mon PowerPoint entre Judith Butler et Abby Warburg, les expressions corporelles du genre ou de la performativité chez Judith Butler, mais aussi les gestes dans l'image chez Warburg et la subversion, l'axe subversif du genre chez Butler. Mais je crois aussi qu'il y a une notion de temps, qu'il n'y a pas nécessairement toujours de la subversion, mais qu'il y a aussi de la mémoire dans les gestes. Donc, de penser aussi que... oui, subversion, mais que c'est, on a aussi, il y a toute la notion d'une communauté aussi à une mémoire qui est là, qui est aussi performative. Cette mémoire-là est aussi performative. Bon, puis la dernière remarque, Queer Wallpaper, Atlas Mnemosyne, je trouvais ça intéressant de faire le lien. Donc, l'anthropologue de la sexualité, Don Kulik, à la suite de Judith Butler, explique que la performance est quelque chose qu'un sujet fait. Alors que la performativité est un processus à travers lequel le sujet émerge. Plus précisément, la performance est liée au concept de l'identité, qui est une position stratégique qu'un sujet adopte dans le champ social, alors que la performativité serait associée au concept d'identification, qui est une opération à travers laquelle le sujet se constitue. Ainsi, la performativité chez Judith Butler se déploie dans la durée. Cette performativité dans la durée pourrait s'apparenter à la récurrence des formules de pathos ou des gestes chez Warburg et leur survivance. L'appropriation performative de la pornographie en art est, selon moi, n'est jamais un acte définitif, c'est-à-dire d'identité ou de désir, mais un geste affirmatif d'intensité de plaisir. Donc, le plaisir, c'est complètement deux choses différentes, comme je l'expliquais avec la science sexualiste et l'ars erotica. Donc, des interprétations qui se font dans un relais. Ainsi, en paraphrasant Carl Sirek, théoricien des médias, les images pornographiques animent et provoquent les interprétants, évidemment, mais les images pornographiques, ou tout type d'images, en fait, sont également animées et provoquées à chaque acte d'interprétation. Le geste d'appropriation est à la fois immersif et critique. Mais de la performance identitaire à l'identification performative, il y a, selon moi, d'autres approches théoriques à explorer pour de futures recherches et pour aller peut-être au-delà de la performance et de la performativité, peut-être. Pour moi, il y a l'informe de Georges Bataille, la résonance charnelle et la force orgasmique chez Béatrice Preciado. Le catalogue de l'exposition « Informe, mode d'emploi » explore la notion complexe de l'informe inaugurée par Georges Bataille au moment où il était rédacteur en chef de la revue Documents à la fin des années 1920 et le début des années 1930. Selon Yves-Alain Bois, l'un des commissaires de l'exposition avec Rosalind Krauss, l'informe de Bataille, je cite, n'est pas tant un motif stable auquel on peut se référer, un thème symbolisable, une qualité donnée, qu'un vocable permettant d'opérer un déclassement, au double sens de rabaissement et de désordre taxinomique. L'informe n'est rien en soi, n'a d'autre existence qu'opératoire, c'est un performatif. Fin de citation. Dans cette perspective, l'informe cherche à déclasser, par la performativité, l'ordre de l'archive. L'une de mes hypothèses est que certains artistes s'affairent à défaire la norme pornographique et son régime discursif du sexe en se l'appropriant par la performativité. Cette performativité, vue comme une opération critique, situe l'appropriation de la pornographie dans le contemporain, non comme une simple provocation, mais également comme un travail sur la science de la sexualité. Les artistes inventent une forme d'art érotique leur étant propre, tout en rendant la norme pornographique informe. La généalogie narrative de l'histoire de la sexualité de Foucault se termine à peu près au moment où naissent les nouvelles technologies du visible, que sont la philosophie et le cinéma. Donc, à la suite de la technologie du sexe foucaldienne qui serait basée sur l'écoute, le langage et l'aveu, on peut voir une science de la sexualité se poursuivre à travers la vue, l'image et le geste. Mais puisque, selon Linda Williams, la pornographie est le genre corporel par excellence dans l'histoire du cinéma, avec le film d'horreur et le mélodrame, je me demande si la discipline de l'histoire de l'art ne devrait pas mettre à profit les instruments intellectuels de Williams, permettant d'analyser le genre. Selon moi, les artistes s'appropriant la pornographie nous posent des questions fondamentales sur ce que l'art fait à la sexualité et ce que la sexualité fait à l'art. À travers ces différentes appropriations, les normes artistiques, pornographiques ou sexuelles se réitèrent et se déconstruisent. Hans Maes, historien de l'esthétique de la pornographie à l'Université de Kent en Angleterre, propose d'inventer un nouveau genre à l'intérieur de la discipline de l'histoire de l'art, soit celui de l'art pornographique. Un art qui, selon moi, balance entre l'art érotique, la science de la sexualité, et qui joue sur l'enjeu entre performance et performativité. Dans son essai sur la pornographie, Susanna Passonen élabore le concept de résonance charnelle. Sa définition va comme suit. La résonance peut impliquer une reconnaissance dans le sens d'être en mesure de rapporter les actes représentés à ses propres expériences et à ses propres sensations. La résonance touche et met en mouvement le corps du spectateur sans avoir besoin de similitudes. Entre le spectateur et les artistes, entre les préférences sexuelles de l'observateur et les actes accomplis, ou ses fantasmes et les scénarios à l'écran. Les expériences de la pornographie peuvent impliquer le rythme plutôt que la narration. Plutôt qu'une identification, la résonance est ressentie dans le corps comme une similitude imaginaire qui fait fondre les frontières entre le soi et les caractères à l'écran. Délaissant le regard distancié, la résonance saisit le spectateur en variant et modifiant l'intensité, la concentration et l'attention. Donc, la résonance charnelle, c'était la fin de la citation, la résonance charnelle défait les normes identitaires de représentation de la sexualité, du sexe et du genre et possède des affinités certaines avec l'art érotique ou l'ars erotica de Foucault. Faire face aux représentations sexuelles à la fois pornographiques et artistiques, c'est se plonger évidemment dans l'intensité des affects. Nous sommes ici dans une pédagogie du corps. L'approche des artistes dans l'appropriation de la pornographie est une affaire complexe de distance esthétique, de provocation critique et de résonance charnelle. Chaque corps ainsi interprète, performe, résonne au contact de telles images. Cette résonance charnelle est selon moi guidée par ce que Béatrice Preciado, philosophe et théoricienne queer, nomme la potentia godensi. Donc, c'est sa définition, c'est début de citation. Je nomme potentia godensi ou force orgasmique la puissance actuelle ou virtuelle d'excitation totale d'un corps. Cette puissance est une capacité indéterminée, elle n'a pas de genre, elle n'est ni masculine ni féminine, ni animée ni inanimée, elle ne s'oriente principalement ni vers le féminin ni vers le masculin. Elle n'établit pas de séparation entre hétérosexualité et homosexualité, entre l'objet et le sujet. Elle ne connaît pas non plus la différence entre être excité, excité ou s'exciter avec. Fin de citation. Cette force orgasmique peut être envisagée comme un moteur ou un révélateur de la création artistique et de la pulsion théorique lorsqu'il est question de production esthétique et politique de la sexualité. Elle s'exprime à travers la notion du geste, qui passe d'un sexe à un autre, d'un genre à un autre, d'une pratique sexuelle à une autre, d'un médium à un autre, et je dirais même d'un espace-temps érotique à un autre. La force orgasmique de Preciado nous fait aussi penser au concept de l'informe performatif de Georges Bataille, relaté précédemment. Chez Warburg, La figure emblématique de cette force orgasmique serait celle de la nymphe, qu'il nomme organisme énigmatique, et qui se révèle comme la survivance culturelle de la passion amoureuse, selon lui. Les artistes contemporains travaillant la pornographie utilisent cette force orgasmique afin de remettre en mouvement une culture pornographique à travers une heuristique de l'érotisme et un érotisme de l'heuristique. Entre la science de la sexualité et l'art érotique, cette force orgasmique est un champ de force et de forme qui agit, et où les gestes survivants et subversifs transmettent un savoir incarné. Donc, c'est performatif, là, selon moi. Donc, début de citation de Georges Didier Berman. « On ne produit pas un savoir par les images sans les manipuler. On ne manipule pas les images sans être exposé, pour le meilleur et pour le pire, à subir, voire à transmettre leur pouvoir épidémique. L'œil s'ouvre pour s'approcher des images, pour mieux les saisir, les analyser, les comprendre, mais saisi, pris par elles en retour, l'œil se fermera autant pour éprouver leur souveraine revenance. » Donc, revenance, survivance, subversion, résonance, force orgasmique, les corps érotiques ou pornographiques, à la fois fantômes et fantasmes, ne se figent jamais vraiment en une image autonome. Performance et performativité nous font comprendre que les images ne sont pas strictement visuelles, mais qu'elles sont plutôt gestuelles. Comme l'avait si bien compris Marcel Jousse, anthropologue et contemporain d'Abby Warburg, il faudrait voir les images à travers une anthropologie du geste. Donc, début de citation. Les images, c'est cela qu'on nous apportait toujours, mais les images n'existent pas. Il y a des gestes esquissés ou poussés, gestes corporels, gestes manuels, gestes oculaires, gestes auriculaires, gestes laryngo-buccaux, gestes papillaires, gestes pituitaires, etc. Toute notre vie intelligente se gestualise. Nous voyons non seulement avec nos yeux, mais avec notre corps tout entier. Donc voilà, c'est fin de la théorie ici. Puis... voilà des images de mon projet création. Donc, ça se présentait sous la forme d'un album. Et c'est du montage. C'est un genre d'album de famille, mais avec des photos. En fait, c'est soit des photos d'art, de la pornographie, évidemment, des artistes qui s'approprient la pornographie, de la pornographie d'Internet, un mélange de tout. Et je faisais un montage, je suivais un peu le procédé warburgien du geste puis du montage. Donc, je vais vous montrer une suite d'images assez rapidement, parce que je ne sais pas combien de temps il me reste. Donc, juste pour que vous compreniez. Donc, il y a la tension aussi entre l'art érotique et des images scientifiques aussi, genre les femmes hystériques ou toutes sortes de... Bon, ici, on voit Annie... attendez, l'autre image. Ah, bon, Annie Sprinkle en bas. En haut, c'est le fauve de Bernie. Sinon, Vaginal Davis, une performeuse ou un performeur aussi. Donc, Andy Rowell, une image pornographique. Et la bouche, ça provient de documents de Georges Bataille, la revue Documents. Donc, Marcel Duchamp, Buck Angel, qui est un transman. Donc, Mob Ridge, Sorel Cohen, puis une image de film pornographique. Donc, il y a des artistes de performance dans les images, et autant des... Bon, justement, des extraits de films pornographiques, des œuvres canoniques de l'histoire de l'art aussi. L'intérêt, ce n'était pas de les identifier dans l'album. Moi, j'ai une liste à part, mais pas au niveau du montage. Merci. Merci.